Bonjour, nous sommes le samedi 10 mars 2007, il est midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, DVD, DVD et Highlander.
Suivi de...
Ça c'est du sport à 15h et ensuite... À 15h, le potager, 16h, scène transmission, 17h, vie d'ordure, 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, 20h, la Cétéro expérience, 21h30, stay tuned. Je crois que je me suis un petit peu emballé, là, ouais, non, c'était la reprise, là, c'était pas bon.
Non, c'était pas très bon, mais c'est pas grave, hein.
Bonjour Thomas.
Salut Xav.
Bonjour Manu.
Salut Xav.
Ça faisait longtemps, bonjour, c'est le supplément week-end et aujourd'hui ça va charcler sec et puis après il y aura plein d'explosions quand on aura coupé en deux, 20 fois. La peine capitale, comme ça, ce serait quand même un petit peu plus in, hein. On aurait peut-être gardé la guillotine à ce moment-là. Les regards inquiets, c'est un peu normal. C'était pas exactement ce morceau de Junkie XL qui était prévu en générique, mais plutôt Fight, forcément. We'll be right back. Ah, promis, aujourd'hui, ça va un peu charcler, aller dans tous les sens. Puisque Emmanuel Andral, dont vous avez pu apprécier quand même les talents de fin bretteur et sabreur dans la bande-annonce vidéo de cette semaine, donc est là pour parler de Highlander. Alors, je ne vais pas dire pourquoi exclusivement Highlander, mais je vais dire pourquoi le sabre.
Quel sens ta question exactement ?
Mais pourquoi manipuler le sabre ?
Ben comme ça, pour le sport et aussi... C'est vrai que découvrir la série m'a donné un petit peu envie de...
D'accord, donc en fait ce monsieur est un immortel, si vous voulez vous le combattre, vous serez sympa d'attendre après.
Vous allez perdre surtout.
Oui, oui en plus. Thomas, bonjour.
Salut Xavier, donc, oui, nous sommes de retour suite à l'interruption de la semaine dernière.
Ouais, que... juste une question.
Oui.
Je crois qu'en ce moment il y a un événement. Traverse vidéo.
Oui,
donc
oui, tout à fait, oui.
tu es allé voir, tu as vu et la plupart des choses sont gratuites. Donc qu'est-ce que tu en as retenu ? C'est un festival de court-métrage si je me souviens bien.
Oui, tout à fait, Traverse vidéo, eh ben c'est en partenariat avec le lycée des Arènes. Et c'est tout ce que je peux te dire parce que je n'y suis pas allé en fait, j'ai complètement zappé comme un gros porc. Il faut dire qu'en ce moment, on a pas mal de trucs à penser, on est assez une grosse fatigue sans nous envahir toute l'équipe. Donc une faute pas professionnelle d'ailleurs puisque on fait de l'amateurisme ici, vous savez bien, du bénévolat. Donc une faute de bénévolat, voilà.
Voilà, justement à propos des spéciales à venir tout à l'heure, une spéciale Highlander.
Alors là, on dit que ça va charcler aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir du bourrinage de tranches bientôt.
Et là, je crois que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aimeraient acheter des tickets, puisque les tickets sont en vente à 10€ l'unité. Si vous voulez participer la semaine prochaine, si vous voulez voir le plus talentueux dessinateur chinois de sa génération,
tu vois. Oui, ça, alors c'est là, c'est pas gratos. Hein. Je sais qu'il y en a déjà qui font la queue. Ah, je vais venir, venir. C'est bon. Hein,
Non, parce que nous,
le studio est assez petit.
Voilà, donc il va falloir limiter les places, sinon après c'est à la librairie album. Donc le 17, la semaine prochaine, Benjamin sera parmi nous pour son nouvel album qui est un recueil de cours qui s'appelle One Day. Après Remember et
Orange,
et qui nous avait bien impressionné. Trop là, cul, on va s'en prendre plein la face encore, mais cette fois-ci retour la bonne vieille tradition, l'arme blanche.
C'est plutôt plein la tronche en fait, puisque on fera un dossier spécial autour du film 300 avec chronique de la BD de Frank Miller et etc. Voilà. On fera pas une spéciale autour de ça parce qu'on a déjà fait une spéciale autour de Frank Miller, mais là on fera vraiment un gros dossier dessus.
Le 31.
Eh ben, 31 mars.
Ça va charcler encore.
Voilà, mais... Alexandre Astier.
En interview.
Voilà.
Dans le supplément.
Spécial Kaamelott.
Pour une spéciale Kaamelott en collaboration avec Actua BD. Et le 7, c'est un.
Made in Japan.
C'est un récurrent qu'on fait tous les ans depuis
Baronnier.
Un sacré bail. Du moins pour moi, à chaque fois que je parle de bande dessinée, dans toutes les émissions de bande dessinée dont j'ai parlé, ça fait depuis plus de 10 ans que la première semaine d'avril, comme c'est la semaine des vacances au Japon, comme c'est le moment des nouvelles séries télé et tout ça, et ben on parle du Japon.
C'est pas cette saison-là que les gens ouvrent leur maison pour faire des expos et tout ?
Ça, tu parles d'un événement qui a lieu dans le vieux Tokyo qui j'ai pas le nom j'ai le nom sur le bout de la langue.
C'est là pendant
mais
le
non, c'est non non, c'est début octobre.
Ah d'accord.
Effectivement, et c'est à cette occasion-là que Frédéric Boilet a lancé la nouvelle manga dont on m'a parlé tout à l'heure. Puisqu'il y a un petit encart nouvelle manga un peu en avance, voilà et tout, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à parler.
Et rassure-moi, tu devais pas faire chroniquer des BD spéciales autour d'Highlander ?
J'ai pas eu le temps, franchement.
D'accord.
Là, ça a été un petit peu,
donc,
on va dire.
La tâche,
chaud.
Xavier.
C'est ça. Fous-toi de ma gueule.
Et si tu passais aux news ?
Exactement. Allez hop !
And now. The news.
Eh ben c'est à toi hein, mon vieux.
Ah bah non, c'est à toi de me présenter.
Ah oui, mince, faut lire.
Non, c'est à toi de m'introduire.
Ah d'accord, je vais introduire Xavier en direct alors. Voilà. Eh bien Xavier.
The news.
Ah, c'est pas le conducteur. Hein. Bon maintenant les news présentées par Xavier.
Bonjour Thomas. À chaque livre du groupe Lagardère Active, qui représente aussi bien en gros porteur, en avion, lance-missile et en bouquin, a racheté l'éditeur manga Pika Édition, qui représente quand même 12% du marché manga en France. C'est le troisième du secteur derrière Tonkam, si je me trompe, et Glénat. Le communiqué de presse annonce sibyllinement que les compétences de Pika Édition vont aider Hachette à développer ses branches manga ouvertes au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, s'ils sont déjà viandés. Alors là, on s'est fait un petit calcul, rien que pour le plaisir, c'est quels sont les principaux acteurs, les principaux éditeurs de manga en France. Kana, qui est un label qui a été monté par Dargaud, Tonkam, qui a été racheté par Delcourt, Saka, qui est une collection de Casterman, Génération Comics, qui est une collection de Panini, Doki Doki, qui est une collection de Bamboo Édition, Soleil Manga, Glénat, historiquement premier gros éditeur à avoir traité de ce domaine, restent les indépendants, bientôt rachetés, Taifu.
Taifu Comics, oui.
Et il n'y a pas des masses. Voilà. Voilà, le secteur manga, on vous l'a dit, en faisant le débrief d'Angoulême, allait vers une très forte concentration et que ça allait être le match entre Delcourt et donc Soleil, vu que depuis, suite au rachat par le groupe Dargaud, ben, avait décidé de laisser ça à Dargaud. Et ben là, il semblerait que Hachette se relance dans la bande dessinée après avoir perdu. Ils ont arrêté la bande dessinée à quelle occasion?
Après le procès d'Astérix, peut-être, non ?
Ils avaient gagné, effectivement, la distribution et l'édition des albums d'Astérix. Et puis après, ben, Albert Uderzo a souhaité reprendre la collection à son compte. Donc Hachette n'était plus vraiment présent dans le domaine du livre. Donc voilà, donc un chouette petit retour pour Lagardère Active dans le secteur. On a aussi appris, on va dire d'une manière un peu pénible, la disparition d'un grand de la bande dessinée, à savoir Yvan Delporte, qui est un scénariste et aussi un ancien rédacteur en chef de Spirou, qui a laissé une immense marque sur la bande dessinée franco-belge. À l'âge de 79 ans, la plus longue barbe de la bande dessinée nous a quittés, c'est bien dommage. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Yvan Delporte, on n'aura absolument pas le temps aujourd'hui, vu qu'il a collaboré effectivement avec Franquin, avec Roba, avec Peyo, avec tous les grands. C'est lui qui entre autres a coécrit les scénarii de la série télé des Schtroumpfs. C'est lui qui a créé énormément de choses d'ailleurs dans Lucky Luke à côté de Goscinny, avant que Goscinny prenne la main. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la bande dessinée en France et en Belgique. C'est pas un dessinateur, c'est un scénariste pur et dur et aussi un rédacteur en chef qui avait beaucoup à mener. Et donc, ben, il nous a quitté lundi dernier. C'est intéressant peut-être à noter de qu'il y a un bouquin, pardon, un article qui est à lire, qui est intéressant, qui est l'article écrit par Alain de Cuiche, qui a été son successeur à la rédaction de Spirou Magazine, qui livre les clés qui permettent de comprendre qu'Yvan Delporte est le vrai modèle de Gaston Lagaffe. Et à noter aussi sur le site de Spirou, spirou.com, un hommage à Delporte où il y a 4 pages où des dessinateurs rendent hommage les uns après les autres. Il y a Johan Sfar qui raconte que la première fois qu'il a vu Yvan Delporte, eh ben, il était mort, mais mort pour rire, dans un festival de bande dessinée. Énormément de dessinateurs, effectivement, puisque c'est l'un des grands piliers de la bande dessinée jeunesse qui est parti comme ça lundi dernier. Et pourtant, le 28 février dernier, eh ben, ce fut la Saint-Gaston Lagaffe. Oui, toi, Gaston Lagaffe, inventeur du gaffophone et de la morue aux fraises, écolo mais pollueur, toi dont l'immense créateur, André Franquin, Dieu le Père, nous a laissé orphelin il y a 10 ans. Toi, inventeur du statut de héros sans emploi, mais attention, pas au chômage. Toi, le poète de l'inutile, comme l'a si bien écrit le quotidien belge le soir. Oui, toi, tu es mon maître à penser dans mes maladresses et mon inventivité, aussi bien au boulot qu'en dehors d'ailleurs. Mon AX vaut guère mieux que ta Fiat 509, à excepté les trous de rouille, peut-être moins important. Mon chat vaut guère mieux que le tien, mais là je n'ai pas encore de moitrieuse. Et après tout, le rire est le propre de l'homme et de la mouette de Gaston Lagaffe. La manière de draguer que j'applique ne vaut guère mieux que la tienne pour emballer Moiselle Jeanne. Ma musique est aussi appréciée que ton gaffophone ou ton orgue à klaxon. Alors oui, Saint-Gaston Lagaffe, j'avoue, je t'admire, mais par pitié, protège-nous de la morosité. Car pour les 50 ans de ton apparition dans le journal de Spirou, eh ben, Marsu Productions a sorti un album, Gaston, 50 ans. par Franquin, avec des sketchs d'ailleurs écrits à l'intérieur par Yvan Delporte et Jean de Messmaker alias JDM. C'est pas, c'est le vrai nom donc de l'homme qui portait les contrats, c'était JDM, un dessinateur. Mais entre nous, aucun gag inédit dedans. Vous serez très déçus par le contenu, sinon pour quelques illustrations originales, mais en fait cet album n'apporte rien et c'est vraiment dommage. Lundi dernier, Yvan Delporte nous a quittés. Franquin s'en est allé un mois après la sortie du précédent album. Un signe, très probablement qu'il ne faut pas tirer sur la corde. Une chose est finie, laissons le génie en l'état. Surtout le génie de la gaffe. Gaston, 50 ans, un album édité par Marsu Productions, compilation de quelques dessins, quelques illustrations inédites de Franquin et d'autres qui ont été recoupées. Vous n'avez pas y trouvé grand chose. Moi, je pense qu'il vaut mieux s'en écarter. Complètement à part vient de sortir aux éditions In The Moon un petit ouvrage carré de Xavier Gorce qui s'appelle Les Indégivrables. C'est le deuxième tome. Le premier m'avait déjà beaucoup fait rire et on avait beaucoup parlé. D'ailleurs, pas mal de gens de mon entourage me l'avaient piqué. C'est des petits dessins de presse et c'est vraiment du dessin avec des pingouins qui se retrouvent dans des situations, je vais dire, assez inhumaines, mais pourtant tout à fait humaines. La politique, l'économie, tout cela se fait égratiner et c'est un peu normal puisque c'était les dessins de presse qui sont parus dans la newsletter quotidienne du site lemonde.fr. Après tout, un dessin de presse qui paraît comme ça uniquement sur support électronique, pourquoi pas, mais ressorti après sur album, ben, ça veut dire oui. Il y a quand même une place. Xavier Gorce, Les Indégivrables, le deuxième tome vient de sortir chez In The Moon. C'est un petit recueil de gars qui se laisse lire avec beaucoup de plaisir. C'est assez sarcastique, assez méchant. Et ben après, derrière, il y a une certaine réflexion qui est à lire. Et c'est pas désagréable. Frédéric Boilet, on en parlait tout à l'heure, il est justement le directeur de la collection Saka, qui est la collection manga, pas trop mainstream, mais plutôt manga élitiste chez Casterman. C'est aussi le créateur du manifeste de la nouvelle manga. Il vient de sortir, elle, chez Echo Comics, c'est un recueil d'histoires. Et Frédéric Boilet a créé un genre, celui du français qui passe ses journées dans Tokyo, aéré dans cette immense mégapole uniquement pour draguer des japonaises. Alors, faut dire aussi qu'il avait un joli précédent avec 3615 Code Alexia, ça c'était en France, c'était en 89, ça a été réédité chez Ego Comics d'ailleurs, mais que depuis Love Hotel et Tokyo et Mon Jardin, on pourrait croire qu'il est allé habiter au pays du soleil levant rien que pour ça. Bon, je vous rassure, c'est complètement faux, il a aussi créé donc le manifeste à la nouvelle manga qui veut laisser plus de place à l'histoire, à la quotidienneté par rapport à la beauté du dessin. Frédéric Boilet a un dessin très photographique, mais surtout, il a la passion de raconter une bonne histoire sans effet de manche, d'intrigue à tiroir, des goûts d'explosion. On est très loin des blockbusters. Alors le problème, c'est à la lecture de la troisième histoire que vous regrettez de lire des BD dans le métro. Surtout qu'il y a toujours des curieux pour lire par-dessus votre épaule. Tiens, l'autre jour, quand Thomas était en train de se faire le dernier chevalier du Zodiac, il y a des mémés qui le regardaient du style à son âge, enfin, ce grand garçon. Et que cela devient...
Non, pas des mémés.
Et que cela devient gênant quand vous vous rappelez subitement que Frédéric Boilet vous avait montré en 2001, justement, dans le quartier des Bissous, justement, là où il y avait lieu cet événement avec Thomas, dont je ne retrouvais pas le nom, quelques-unes de ses histoires prévues pour des magazines déshabillés. Un gros plan sur des poils pubiens, position sous toutes les coutures. Ainsi, l'art de draguer de la japonaise désœuvrée, de déshabiller les filles dans les Love Hotels. Moi, c'est graphiquement très explicite et ça ne pas laisser dans toutes les mains. Après, oui, on apprend des trucs, bon, c'est clair. Frédéric Boilet est un homme qui aime les femmes et qui le leur rend bien. L, c'est chez Ego Comics, et oui, c'est celui-là. Et c'est un très bel ouvrage que du sport vient à l'instant de me piquer.
Ah non, mais on avait dit qu'on les disait plus en direct, ça.
Vous êtes chiant. Il y en a une qui a très bien compris que Fred Bollet aime beaucoup les femmes et qu'il est très sexuellement actif, c'est Aurélien Horita. Si vous aviez écouté l'émission l'an dernier quand on les a reçus.
Ça fait presque un an, oui.
Ouais, ouais, c'était quelque chose, quoi. C'était grand, hein.
S'ils n'ont pas la télé couleur, forcément.
Oui, voilà. Bah, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site de la radio www.radio-fmr.net. Vous cherchez supplément week-end, vous allez tomber dans notre mini-site. Ou sinon, vous cherchez supplément week-end et vous cherchez Boilé ou Rita ou nouvelle manga. Et normalement, vous allez tomber dessus. Vanida, l'immeuble d'en face, tome 2, vient de sortir dans la collection Contre-jour chez la boîte à bulles. Et Noël approche. Dans le petit quotidien des habitants d'un immeuble, rien ne change. Appartement 1, une maman célibataire à peine débordée par son gamin Rémi et son bébé Charline. Appartement 2, Jackie et son compagnon. Tous les deux ont connu de meilleurs jours. Leur couple bat de l'aile, mais il a toujours droit à l'affection de leur chien Gypsy. Et au dernier, Claire et Louis, deux étudiants qui vivent ensemble, qui s'aiment et qui auront toute leur vie pour ça. Immeuble d'en face, c'est le premier projet de Vanida, son premier album auto-édité, et lors de la première apparition à Angoulême, et ben, à l'époque dans la partie fanzine, et ben, déjà ça a été un immense succès critique, tout le monde courait après elle. Couru par des gens qui ont vraiment flairé une œuvre exceptionnelle et étonnante. Pensez donc. Cette timide dessinatrice venue du Nord, qui aura immédiatement droit au label Nouvelle Manga, sera proclamée meilleur manga publié aux États-Unis par la revue professionnelle Publisher Weekly. Je vous rappelle que c'est une bande dessinée française, quand même, à l'origine. Car les thèmes qu'elle aborde n'ont pas de frontières. La rythmique japonaise donne une histoire sans ellipse et le graphisme transporte sur certains détails. Bref, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve parmi les locataires de cet immeuble qui se croisent dans l'escalier. Au départ, sans vraiment se voir ou se connaître. Et puis après, qui apprennent le passé de chacun, ont des sentiments pour les autres. On est à milieu de plus belle la vie, rien ne semble faux et les histoires sont plus intimes. Et la dessinatrice, est-ce qu'elle a changé avec le succès? Thomas et moi, on l'a retrouvée lors du dernier festival de la bande dessinée Angoulême. Ce petit bout de femme a su de rester simple comme les premières fois qu'on l'a interviewée. Moi, pour justement la version fanzine de l'immeuble d'en face. Et ensuite, pour l'année du dragon, série en 3 tomes. Et le succès lui a pas monté à la tête. Après, est-ce qu'on va s'en plaindre? Non, pas du tout. L'immeuble d'en face, tome 2 de Vanida. C'est dans la collection Contre-jour, chez la boîte à bulles. Ça se lit vraiment comme des fractions de vie quotidienne et c'est très 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 beau à lire.
Ah, ça veut dire qu'il y a un regard de Xavier pour me dire continue meuble, c'est ça?
Non, c'était on avait retrouvé Vanida. Moi je me souviens qu'on avait
parce que tu m'as encore raconté l'anecdote que j'ai déjà entendu 15 fois que oui c'est une petite pépite parce que tu l'avais découvert dans le truc fanzine.
C'est vraiment que le succès lui a pas monté à la tête, c'est quand on l'a interviewé.
Ah oui, c'est quelqu'un de très abordable, qui est tout à fait gentil, sympa, et c'est vraiment un régal de discuter
avec elle. Ouais, et surtout, elle avait continué les dédicaces, elle tenait absolument à toutes les faire, rien n'obligeait à les prendre.
Oui.
Et vraiment, elle est adorable. À mon avis, il faut en profiter, parce que franchement, ça devient très 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 rare, des gens comme ça. Voilà. Je suppose qu'on me demande de passer ça?
Alors, ça va être le morceau 9, mais avant... J'ai un truc à dire quand même.
Ouais.
Parce que alors Xavier, tu fais des filatures parce que tu surveilles quand même. C'est quand même toi le producteur de l'émission. Tu ne peux pas te permettre de passer tout et n'importe quoi non plus. Alors je sais que des fois je suis censuré parce que tu te moques de certaines lectures que je peux avoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais faire la chronique. C'est Manu qui va sortir ce tome. Attention.
Suspense.
Voilà. Alors montre à Xavier.
Saint Seiya épisode G tome 10.
J'aurais dû m'en douter.
Donc Manu, donc il s'agit d'une série, d'une nouvelle série de mangas autour de l'univers de Saint Seiya qui se passe donc avant la série classique. Ça fait au moins 25 fois qu'on vous en parle à cette antenne. D'ailleurs, Manu n'en a jamais parlé. Donc
attends, vas-y.
Faudrait préciser la traduction française de Saint Seiya.
Oui, c'est les chevaliers du zodiaque.
Voilà. Parce que les gens ne sont pas au courant.
Donc voilà, donc c'est toujours Masami Kurumada au scénario qui n'a d'égal que l'incapacité chronique à se renouveler, à sortir de ses schémas bidons depuis une vingtaine d'années. Et mais par contre Megumu Okada au dessin, alors là je te laisse en parler à ma place puisque j'ai déjà été assez dithyrambique sur son style.
Oh, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Que j'aime beaucoup le traitement des armures, mais que je regrette par contre le côté un petit peu parfois brouillon des combats où on a un petit peu de mal à identifier les parties du corps. Mais sinon, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de revoir un bouquin dessiné par Kurumada, et c'est vrai que tout d'un coup, je me suis mis à préférer l'épisode G, finalement. Et que Kurumada, finalement, ça serait bien qu'il arrête de toucher à Saint Seiya, notamment pour le scénario, et qu'il se contente de toucher ses droits d'auteur.
Non. Bon, donc en clair, tu me confirmes qu'il est capable de dessiner proprement, ce monsieur.
Kurumada ou le nouveau? Non, le nouveau, c'est vraiment une tuerie, hein, le graphisme.
Ah oui, c'est, enfin, ça a absolument rien à voir avec Kurumada.
Le rendu, le dynamisme des postures, même si effectivement, des fois, des visuels, ça se résume à un peu chercher Charlie parce que tu sais pas trop où est la jambe, comment est orienté le pied, mais ça peut être aussi,
ça a saboté quand même visuellement.
Oui, oui.
Allô, la régie finale, non, mais je sais qu'il est seulement 12h27, mais si on pouvait passer les pubs avant. Ok, merci. Oui.
Ah, on est encore censuré, c'est une honte. Donc, c'est Saint Seiya épisode G, tome 10.
Voilà.
Et c'est édité chez
Panini Comics.
Baston!
Mardi 13 mars, venez danser au Habana Café sur la musique de Los Ban Ban. Véritable mythe vivant, le groupe met tout le monde d'accord. La structure de base est celle de la charenga, mais modernisée avec l'ajout de trombone, guitare, basse électrique et batterie. Icône de la musique cubaine, ne manquez pas Los Ban Ban, mardi 13 mars au Habana Café.
Le mercredi 11 mars au Havana Café. Fuck off. Sous les fixes.
Attends, il y a du dieu après.
Ce metal new school death thrash est très efficace. Accessible par ses mélodies. Il est néanmoins massif et puissant, machine et groove. Avec Keyforce en première partie. Zoulefix au Havana Café le 11 mars 2007.
Ça réveille les tapettes.
Et ça va péter à la gueule.
Ah ouais. Mais ça change les chevaliers Zodiac, hein. Attends, c'est pas fini les pubs, hein.
Retrouvez Saxon le 22 mars au Havana Café. Formé en 77, Saxon est devenu le groupe phare de la scène heavy metal britannique. A classé au même rang que Iron Maiden et Def Leppard, venez reprendre les refrains imparables de ce hard rock incontournable.
Bah ouais, c'est pas un slow.
Saxon sur scène le 22 mars au Havana Café.
Le supplément week-end continue après ça.
To survive in a war with the darkest power.
Nous sommes dans Supplément Week-end, une spéciale Highlander aujourd'hui avec Emmanuel Andral qui nous fait le plaisir de venir nous rendre une petite visite. Alors, qui est Manu? Manu est ce qu'on appelle affectueusement un otaku. Mais dans le bon sens du terme, il ne va pas vous saouler de baratin, dont vous n'avez rien à faire, argumentant sur les subtilités des doubleurs de séries animées ou les divergences d'ailerons sur les armures de Gundam. Non, quoique, il est capable de soutenir une thèse sur la représentation kabbalistique dans l'épisode 13 de la série Evangelion, essayer de lui affirmer que cette série phare des années 90 n'a pas de fin, équivaut à espérer une mort rapide au katana.
Oui, faut faire gaffe là.
Ouais, c'est qu'il a l'air tout gentil comme ça, mais il n'est pas du tout poli quand on le fout devant Mario Kart. Adepte de la pratique du sabre, notre invité d'aujourd'hui est littéralement tombé dans la marmite des MacLeod depuis qu'il a découvert cette série en revenant d'un collège dont il passait les cours à noircir de dessins ses cahiers. Il a même poussé le vice à arborer par tous les temps un long manteau noir et une queue de cheval qu'il a d'ailleurs fini par couper pour se faire accepter en disciple du commandant Gendo Ikari. Artiste avec un grand A, dessinateur, peintre, compositeur, séché sur une œuvre de Jean-Sébastien Bach au Time's Up devant lui, il vous fera la gueule pendant une bonne semaine. Réalisateur, c'est d'ailleurs lui qui a réalisé la bande-annonce vidéo officielle de cette émission spéciale. Manu expérimente depuis plus de 5 ans les affres de la création de séries animées. Manu, je préfère que tu sois présent avec nous dans cette émission plutôt que craindre d'être découpé au sabre japonais après avoir fauté sur la première apparition d'Amanda dans la série télé. Et c'est avec plaisir que nous allons débattre avec toi sur le degré de dobitude de Highlander de The Quickening.
Oula.
Parce que rappelons-nous, c'est à l'occasion de la sortie en DVD de cette dobe énorme qu'on fait cette spéciale.
Ouais, j'ai également appris qu'il y avait un nouveau Highlander film qui était sorti.
Mais nous
Highlander
allons en parler.
Il y a bien des choses à dire dessus.
Highlander The Source.
Même une trilogie qui était prévue à l'origine.
Non, attendez, on se
là,
calme.
Ça fait trop de news à la fois.
Moi, j'en suis resté à la série télé. Hein. D'abord, j'avais vu le film superbe, énorme. Christophe Lambert qui arrive à être intéressant, c'est énorme. Et je me suis dit, non, mais c'est génial, c'est gigantesque. Et puis Thomas me dit attends, on va faire une spéciale là, une spéciale Highlander, c'est d'actualité. Ah bon, moi j'en étais resté au film qui date de 86 et à la série de 92 et qui était énorme. Et donc ça tombait bien, ça passait sur AB1 lundi dernier, donc je l'enregistre. Et je me suis dit je me le regardais. Donc soirée, popcorn, petit ami, chat sur le plaid et tout ce que vous voulez. Et là j'ai cru. Non, mais là, je me suis dit, attends, je rembobine, là, j'ai pas tout compris.
Non, coupable, mais... ils doivent être exécutés maintenant, ici.
Vous oubliez peut-être, Général Katana, que depuis de nombreuses années, nous avons exilé les criminels coupables de rébellion qui, comme vous, possèdent une immortalité profane.
Ah, subtil.
Nous allons donc livrer notre sentence.
Aïe.
Pour avoir mené la rébellion, ils seront bannis de Zeist et exilés dans le futur.
Quoi ? Silence, Général Katana !
Dans ce futur, vous aurez à affronter d'autres immortels dans des combats à l'issue desquels un seul survivra.
Bon,
Et votre immortalité prendra fin quand votre tête sera séparée de votre corps.
Ok, ça j'ai bien.
Seul le dernier qui survivra aura le choix.
Le choix ? Quel choix ?
Vieillir et mourir sur Terre, ou revenir ici pour retrouver son entière liberté sur la planète Zeist.
Alors là, ma copine, comment dire, elle s'est trouvée un petit peu désarçonnée, mais... et elle a tenté de résumer ça. Et je dois dire...
Bon, maintenant, voyons si j'y comprends quelque chose. Tu es mortel sur ta planète, mais tu es immortel sur Terre. Jusqu'à ce que tu élimines tous les immortels de Zeist qui sont venus ici. Et à ce moment-là, tu seras mortel sur Terre, à moins que tu ne retournes là-bas, ou que d'autres immortels de Zeist viennent ici sur Terre. Auquel cas, tu deviendrais immortel à nouveau sur Terre.
C'est à peu près ça.
Ah, je vois. Ça doit sûrement être quelque chose comme ça.
Et c'est là qu'elle s'est rendormie, me laissant tout seul devant ce qui m'a semblé tout d'un coup être un phénomène nanar à très haut budget.
Ah oui, mais là, à mon avis, la bande-son, faut qu'elle aille direct sur Nanarland. Il y a urgence, hein.
Alors,
j'ai plein de trucs. Là, j'ai déjà des réactions parce qu'en fait, je connaissais pas cette version audio, vu que je connaissais la version VHS.
Donc, c'est celle qui est passée lundi dernier sur NT1.
Alors, déjà, j'ai beaucoup apprécié le Zeist prononcé de deux façons différentes, sachant qu'ils l'ont prononcé comme un zeste de citron là au début. Les immortels profanes, certainement une excuse pour justifier le fait qu'en fait Katana mette 400 ans à aller voir Connor McLeod sur Terre pour le tuer, parce que ça voudrait dire qu'en fait il était aussi mortel sur Zeist, si j'ai bien compris. Ou alors ils vieillissent très lentement. J'ai beaucoup aimé le passage du choix, on se serait cru chez Arthur là, pour le coup.
Prends ça dans ta gueule.
Oui, merci.
Alors si on récapitule depuis le début, il faut quand même revenir aux sources, car au début, il ne pouvait en rester qu'un, c'était qu'un film, un film de Russell Mulcahy. Et pourquoi ce film a été...
Tiré du livre de Gregory Whedon.
D'accord.
Au départ, hein.
D'accord.
Idée de Gregory Whedon. Je ne savais pas que c'était un livre à l'origine, mais...
Oula, Manu, on apprend tout plein, là.
Et donc le premier film a été quand même accueilli en tant que film culte, et puis il est devenu, il est resté encore aujourd'hui. C'est quand même un gros film de Mulcahy, c'est quand même une bonne tuerie. Et pourquoi il a été célèbre ? Il est avant tout célèbre parce que ça a été le film emblématique de la génération MTV qui est passé au cinéma. C'est-à-dire qu'avant, quand on faisait des films en costume qui se passaient en langue 400, ben voilà, il y avait des musiques de cornemuse, etc. Et là, il passait du Queen derrière. Donc c'était le premier film qui a utilisé ça.
Queen fait vraiment partie pour moi de l'identité d'Highlander, et à chaque nouveau film qui sort, je m'offusque de la non-présence du générique télé du premier film, qui est vraiment énorme et qui pour moi fait partie de l'identité, c'est indissociable.
Attends, non, ce qui fait vraiment l'identité de Highlander, c'est quand même les qualités d'interprétation de Christopher Lambert avec son arme ultime, c'est mille et une variations autour du rire. C'était nul.
Donc Manu, si tu peux nous raconter un peu ce que voilà, à quoi ressemble le premier film. Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, le premier film en fait, donc, pour le Connor McLeod, donc pas Conrad comme dans la VF, est immortel.
Sauf que McLeod, ça se prononce MacLeod dans le film.
MacLeod.
Oui, c'est vrai. Enfin, ma prononciation anglaise est pas terrible.
Non,
en fait.
C'est écossais. Là.
Voilà, il y en a un qui est écossais, l'autre anglais.
Oui,
voilà. Alors, je sais plus
oui,
lequel.
Il est écossais. C'est vrai.
Attention, hein. Faut jamais confondre.
Jamais confondre. En fait, le premier film, bien que relativement manichéen, fait quand même la belle part au romantisme. Enfin. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché dans ce film, c'était l'histoire en 13 heures, la première femme de MacLeod. En fait, donc lui est immortel, elle est immortelle, il reste avec elle jusqu'à la fin de ses jours. Il y avait tout un aspect romantique. Il y avait un méchant charismatique, donc...
Même s'il était un peu bourrin.
Oui, même s'il était un peu bourrin. Au joli nom de Kurgan, joué par Clancy Brown.
Magnifique.
Magnifique, Clancy Brown.
Souvenez-vous. Et donc il y avait aussi Sean Connery aussi magnifique. Assez en forme
magnifique Sean Connery.
Ouais, cool. Qui donc jouait le mentor de Connor McLeod. Alors donc les immortels sont à la base des enfants trouvés qui deviennent immortels à leur première mort, c'est-à-dire qu'en fait Connor meurt dans un champ de bataille une première fois et ressuscite à la grande surprise générale. Il est donc considéré comme un suppôt de Satan, comme le diable, et est chassé de son village après s'être fait un petit peu lyncher. Et en fait, lors de sa rencontre avec son mentor, donc Ramirez, on va dire pour faire court, vu qu'il a un nom à rallonge.
Le vieux bouc espagnol.
Oui, oui.
Sauf qu'il n'est pas du tout espagnol, c'est ça?
Non, non, il est égyptien. voilà, qui lui apprend qu'en fait, il est immortel, il ne peut mourir que s'il est décapité et ne vieillira pas. Et c'est justement à cette époque que Connor fréquente sa nana du moment, Heather, avec laquelle il passera toute la vie d'Heather.
D'accord.
Voilà, et quelques siècles plus tard, doit avoir lieu l'ultime combat, au terme duquel il ne peut rester qu'un seul immortel, et lequel obtiendra le prix.
Alors le prix, on sait ce que c'est uniquement à la fin du film. Torrent d'effets spéciaux. Oh, tu n'avais pas préparé à ça, vieux bouc espagnol. Et puis à la fin, il y a plein d'éclairs et il a gagné.
Alors, le prix, c'est surtout en fait qu'il peut redevenir mortel.
Magnifique.
Formidable. sachant qu'il y a une petite variante, puisque si Kurgan avait obtenu le prix, apparemment, les humains auraient pu le subir pendant toute une éternité. Ce qui n'était pas vraiment cool.
Et d'après ce qu'ils disent aussi, quand tu as le prix, tu peux aider tous les êtres humains à se
Alors comprendre. En fait, un truc qui n'a pas vraiment été exploité par la suite, c'est qu'à l'origine, les immortels ressentent énormément les choses, d'où une scène où Sean Connery, donc Ramirez, apprend à MacLeod à entendre le battement de cœur d'un cerf. Et à la fin, en fait, apparemment, Connor peut comprendre toutes les personnes. Alors, je ne sais pas s'il faut entendre par là qu'il peut lire dans leurs pensées ou autre, mais voilà, il acquiert une certaine importance.
D'accord. Bon, du sport, tu as semblé rebondir sur le nom de Clancy Brown. Donc, on va essayer d'explorer les petits à côté des films, pourquoi ils ont eu tel succès et tout. Clancy Brown, c'est quand même quelqu'un qui est devenu, qui était connu là-bas et qui est devenu connu par la suite aussi, puisqu'il a fait, il a tourné pendant pas mal de tueries aussi.
Bah ouais, mais bon, il faut dire que je crois que c'est un des premiers films dans lesquels il se fait bien remarquer, hein, et, où il a un second rôle vraiment super intéressant. Bon, le rôle du bad guy, et puis quand c'est un bon bad guy, généralement, l'acteur qui a servi le rôle, il s'en met plein les fouilles et ça lui fait trouver pas mal de boulot par la suite. Parce qu'après, on l'a vu, là, il y a un film qui repassait à la télé il n'y a pas longtemps de Walter Hill, pas un des plus connus, Extrême Préjudice, où il fait un petit peu, il y est également avec toute une bande de gueules cassées, enfin bon, les Nick Nolte, toute la bande. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a revu dans des séries et dans des rôles récurrents. Hein, il y a cette série qui est passée, qui a duré 2 saisons, qui s'appelle Carnival, dans lequel il avait un rôle récurrent, le rôle du pasteur également, un rôle un petit peu habité comme ça, et on l'a vu également dans une autre série, mais là j'ai pas vraiment...
On l'a vu dans une série récente où il avait un personnage qui ne fait que passer mais qui est assez important, dans Lost.
Dans Lost, voilà, c'est ça, ouais, exact.
C'était le premier gardien de la trappe. Et on l'a vu aussi dans Starship Troopers, qui c'est lui quand même, qui c'est pas le héros, mais c'est lui qui bute l'araignée géante.
Ouais, ouais, mais bon, c'est normal, hein, c'est la confrérie, tu vois, quoi, parce qu'il y avait également Michael Ironside, et on retrouve Michael Ironside dans Starship Troopers.
Oh, mais on en parlera tout à l'heure de Michael Ironside. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le premier film. Bon, nous allons passer au 2. Voilà, le deuxième film.
Ah, Highlander 2.
Highlander 2 de The Quickening. The Quickening qui est l'accélération.
Oui, alors l'accélération. En fait, dans le premier film ainsi que dans la série TV, le Quickening, c'est la force que reçoit un immortel après en avoir décapité un autre. Mais il se trouve que dans Highlander 2, le Quickening est déjà présent sur Zeiss de Citron. puisqu'en fait, Christophe Lambert, Connor MacLeod et Ramirez, donc sur la planète Zeist, s'échangent une espèce de petit éclair trempé dans un bol où ils sont liés, ce qui nous vaudra un magnifique rebondissement dans le film.
Ce qu'il y a d'appréciable avec le 2, c'est qu'il est tout à fait dans la lignée du 1, en fait. C'est tout à fait heroic fantasy, pas du tout de SF, de frisbee volant, ni rien.
Puis surtout, on a bien gardé les noms, et cela dès le début, même sur Zeist. Parce que quand même, trouver des MacLeod chez les extraterrestres, alors qu'il est censé atterrir dans le clan MacLeod sur Terre, c'est quand même très fort.
Oui, parce qu'en plus, il est adopté par des MacLeod.
Oui, sachant que les immortels sont des enfants trouvés, et qu'il est déjà quand même bien vieux sur la planète Zeist. Donc là, il faudra m'expliquer comment ça se fait que Katana, plus tard, revienne sur Terre telle quelle. Alors la technologie a changé, c'est la version téléportation version 2.5. Non, il y a des trucs qui me paraissent bizarres quand même dans cette histoire.
D'accord, alors expliquons un peu, si ticket de métro qui sert de scénario du 2.
Alors, le ticket de métro pourrait prendre beaucoup de place s'il fallait, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments à la con dedans. Mais bon.
Enfin, surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il y a presque une bonne histoire dedans. Si on aurait enlevé Highlander et les extraterrestres, ça marchait.
Disons que Christophe Lambert, après avoir gagné le prix du 1, arrive à faire que les plusieurs races d'humains puissent se comprendre. Donc, il a forgé une espèce de dôme gigantesque pour se protéger de la couche d'ozone qui est détruite.
Oui, parce qu'en fait, c'est l'amorce du 2. Il y a un problème sur la couche d'ozone.
C'est pas ça du tout que j'ai compris du film.
Ah bon? T'as compris, toi?
Que la couche d'ozone était détruite et qu'en fait, il a fait un bouclier pour sauver les humains. Mais en...
Oui.
C'est exactement ce que je veux dire.
Après avoir perdu sa première femme.
Oui, mais il comprend pas les autres humains.
Ah si, hein. Normalement, il a...
Ben, en tout cas, il comprend pas qu'il s'est fait entuber par le chef de la Shield Corporation, qui est propriétaire du bouclier.
Donc, pour résumer, au début du film, il a les cheveux blancs, il est tout vieux.
Non, enfin oui, mais ça dépend de la version du film, parce qu'en fait, dans ma version, au début, il est encore jeune, ils sont en train de lancer le bouclier, puis après on passe 25 ans plus tard pour après revenir 300 ans avant.
Ce qu'il y a de très fort aussi dans le film, hormis le scénario abracadabrantesque, donc on vous a déjà donné un aperçu ici, mais on va pas vous spoiler plus, parce que quand même, il faut pas passer à côté de l'énorme surprise du scénario. grand avantage du film, c'est qu'il y a plusieurs versions. Assez différentes les unes des autres.
Oui. Ah ben déjà il y a la version que moi je connais sur VHS, donc avec on va dire un montage assez simple, enfin si on peut dire simple.
Simpliste peut-être.
Simpliste, oui. Donc où au début on commence par l'histoire du bouclier pour ensuite voir la vieillesse de MacLeod, lequel se souvient 500 ans plus tard. Ah oui, c'est vrai, j'étais sur Zeist avant. Enfin, c'est assez classique dans la trame. Il y a juste l'ordre de certains combats qui ont changé dans la version donc VHS, puis la version télé qui était passée un petit peu plus tard. Sachant que maintenant il y a la version Renegade qui sort, où justement ils essaient de revenir sur l'histoire de la planète Zeist. Tout en ajoutant quelques plans pour apparemment combler des vides scénaristiques. Alors, n'ayant pas vu encore la version Renegade, il me tarde de pouvoir jeter un œil justement sur certains points que j'ai évoqués tout à l'heure. Sachant que même sur la jaquette de la VHS était présent des plans que je n'ai vus dans aucune des versions pour le moment jusqu'à
voilà.
maintenant.
Voilà, il y a un plan de taxi avec le...
Avec un trou. Bah, d'ailleurs, la voiture avec le trou est présente dans le film, mais on ne sait pas pourquoi il y a un trou dans la voiture.
Il y a Simpson coupé qui est retrouvé sur la jaquette. Et on voit le résultat dans le film, mais on ne voit pas l'effet, pourquoi la vitre s'est brisée.
Voilà, le seul point commun en fait à toutes ces versions, c'est qu'on essaie quand même de trouver désespérément une explication à l'existence des immortels. Comme s'il y en avait réellement besoin, et donc il y avait en fait le choix entre c'est une civilisation ancienne qui vivait sur Terre il y a très 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 longtemps qu'on a oublié, un peu à l'image des Atlantes, ou des extraterrestres qui vivent pas sur la planète de Dune, mais c'est tout comme avec un décor relativement à la Star Wars du pauvre, puis avec des mitraillettes, très important les mitraillettes.
Ah oui, ils ont des mitraillettes et ils ont surtout des frisbees volants aussi.
Oui, mais s'en sert sur Terre.
D'accord.
Enfin, en fait, c'est des skateboards volants parce qu'il y a Retour vers le futur qui était sorti ou en préparation pas longtemps, et comme ils ont su qu'il y avait ça, ce serait bien si on en mettait. Il y a aussi une technologie démentielle qui permet à un des assassins d'avoir des ailes mécaniques et de faire notamment des retournées sur place à 180 degrés sans même avoir faire de trajectoire. Il n'y a pas à dire, ils sont très forts. Et pourtant, ils n'arrivent pas à venir à bout d'un vieillard.
Ah oui, parce que le vieillard, c'est
Christophe Lambert, Connor MacLeod, qui a vieilli suite à l'obtention du prix.
Bon, vous l'aurez compris, Highlander 2 est une vraie merde, qui déçoit totalement les fans du premier film, et y compris son acteur principal, Christophe Lambert, qui s'est juré par la suite de dire « Oui, moi je désavoue ce film, on va revenir aux sources du 1. »
Ah oui, mais il reconnaît que c'est une merde. Hein.
Oui. C'est quand même assez rare.
C'est un éclair de lucidité.
Oui, c'est dur de prétendre le contraire.
Et surtout, c'est pas un avis qu'il a dit bien après. C'est au moment de la sortie quand même. Hein.
En fait, le truc, c'est que quand il l'a signé pour le premier Highlander, il l'a signé aussi pour le 2, parce que ça fait partie du contrat pour pas que l'acteur puisse se casser en disant non, j'ai pas envie de faire le 2. Du coup, il a été obligé de le faire. Même Mulcahy l'a fait plus ou moins sous la contrainte et qu'il a toujours demandé à remonter le film. Ça s'est d'ailleurs terminé au niveau du tournage dans des conditions assez épouvantables au niveau budgétaire, mais bon, ça n'excuse pas le scénario abracadabrantesque. On se demande où ils sont allés chercher tout ça quand même.
D'accord. Du sport, tu voulais passer un morceau du CD que t'as apporté, numéro 3 s'il te plaît Xavier, pour faire la petite coupure. Hein. Ah, on attend
Ouais, ouais, c'est le morceau, on en parlait off et tout, c'est un morceau extrait de la bande originale du film de Queen, et c'est le morceau qui se situe en arrière-fond, on l'entend très peu, hein, mais c'est dans une scène assez importante du premier Highlander, environ 10 minutes après le début, je crois, c'est ça, hein, 10 minutes, un quart d'heure après le début. Quoi.
Alors là aussi, ça dépend du montage, parce qu'il y a deux montages.
Ouais, 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 mais, c'est pour ça que bon, bah, j'ai une plage minutée assez large, tu vois, 10-15 minutes.
Moi, je dirais un quart d'heure, 30 minutes, c'est la scène où il rencontre Brenda, donc la policière et accessoirement sa future femme.
Yes.
One Year of Love, et qui est quand même très bien pour emballer.
À l'aise.
petit peu de douceur dans un monde de brute épaisse qui se transille à qui mieux.
Sachant qu'il y a...
Attends, peut-être dire qu'on est sur Radio FMR, c'est le supplément week-end
oui,
spécial. spécial Highlander avec Manu Andral. Je vais y arriver. Sachant que...
Oui, ce passage romantique vous a été offert donc, par l'équipe de Supplément Weekend. Et les passages romantiques comme ça, Christophe Lambert, Connor McLeod a un énorme atout pour emballer les filles. C'est quand elles apprennent qu'il est immortel. Et là, il y a le baiser, quoi.
Le baiser, tout de suite. Dans le 1, c'est juste au moment où il se fait enfoncer un couteau pour prouver qu'il est immortel parce qu'elle a déjà des soupçons. Dans le 2, c'est juste après que la nana soit sortie d'une poubelle pour échapper à ses assaillants. Connor lui explique un petit peu pourquoi il a rajeuni, parce qu'en fait il était vieux mais plus après son premier après le quickening. Et bon ben voilà, il est immortel. Ah génial, je t'embrasse, je suis amoureuse. Dans le 3, c'est un peu du même acabit aussi, parce que oui, il y a un Highlander 3 aussi.
Et on y vient.
Et on y vient.
Le fameux Highlander 3. Alors Christophe Lambert a dit. Bah, c'est cool.
Ah. Ouais, cool. Ouais. On est revenu aux sources du 1 parce que bon, c'est vrai que le 2 il était tout pourri.
Donc, que raconte le 3 ? Ce qu'il y a d'abord de frappant avec le 3, c'est qu'il renie tout à fait la chronologie.
Alors,
la
oui, oui. Alors en fait, le 3 c'est plutôt la suite du 1 parce que le 2, vu qu'il a été désavoué par Christophe Lambert et même Mulcahy, ils veulent plus en entendre parler. Donc, en fait, dans le 3. Ben, Connor est toujours immortel puisqu'il a perdu sa femme Brenda du 1 dans un traquenard et lui il a survécu sachant que cette femme est déjà morte de façon différente dans le 2. Voilà, suite au problème de couche d'ozone.
Voilà, cramé aux UV.
Voilà, donc évidemment c'est pas tout à fait pareil. Voilà, donc il est toujours immortel, il a adopté un gosse pour pallier à un petit souci qu'ont les immortels, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà, donc il est le dernier. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justifier l'apparition de nouveaux immortels ? Alors bon, le coup de la planète, on va éviter parce que ça s'est moyennement passé. Ah si, des immortels s'en sont pris à un sorcier très puissant qui était lui aussi immortel et se sont retrouvés ensevelis dans une grotte et on les a un petit peu oubliés. Voilà, ils sont libérés au Japon quelque part lors d'une fouille archéologique et ils ressortent et le premier truc qu'ils ont envie de faire, c'est trouver MacLeod. Parce que bon, ils sont quand même restés 300 ans enfermés, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça énerve.
Oui, et puis ils ont faim, et puis voilà.
Voilà, bah ils ont tellement faim qu'en fait, il y a un des deux complices qui se fait décapiter tout de suite par le boss. Parce que bon, tant qu'à faire, autant envoyer qu'une personne chercher MacLeod, hein, c'est tellement plus facile.
Et donc, le méchant, c'est Mario Van Peebles. Qui obéit dans le nom du personnage, obéit tout à fait à la longue tradition des bad guys des Highlanders, car ils commencent tous par la lettre K.
Ah oui, Kurgan pour le 1, Katana pour le 2 et Kane pour le 3. Sachant qu'il y en aura d'autres.
Qui commencent par K aussi. Donc on a des superbes plans d'effets spéciaux où Mario Van Peebles est découpé en deux et qui se reforme parce que lui il a épousé les pouvoirs du sorcier immortel.
Voilà.
Donc il est un peu magicien. D'ailleurs le titre en VO s'appelle Highlander 3 The Sorcerer.
Les pouvoirs appartenaient au deuxième mentor de Connor McLeod, puisque Connor, après avoir perdu Ramirez et sa première femme, va au Japon et rencontre un immortel particulièrement doué niveau effets spéciaux. Bon, ce qui l'empêche pas de se faire tuer juste à cause d'une goutte de sueur, c'est ballot. Fallait y penser. Et donc, ils sont dans une grotte et au moment où ils meurent, en fait, il y a la tête décapitée du sorcier en train d'expliquer à Ken qu'il ne sera pas le dernier puisqu'il a décidé de l'enfermer. Par chance, Connor est expulsé, on ne sait pas trop comment, de la grotte et parvient à échapper à l'éboulement.
D'accord. Et ce sorcier est interprété par Mako, grand acteur japonais qui a pas mal fait d'apparitions dans les films d'action hollywoodiens pour jouer le japonais de service.
On peut dire ça, oui.
Le Highlander 3 est assez peu intéressant finalement, puisque c'est un remake du pauvre du premier.
Ouais, il est tout pourri.
Et puis c'est juste pour dire, vous voyez les fans, on a renié le 2, c'est cool.
Ouais, on est revenu aux sources du 1.
Et puis je sais que Dusport est un immense fan de cette actrice, mais bon, l'autre point fort, enfin le point fort d'Highlander 3, c'est quand même la présence de Deborah Unger.
Ah oui, notamment dans certains plans.
Oui, 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 tout à fait. Bon, après, elle a fait Crash de Cronenberg, mais c'est là surtout qu'on l'a découverte, puisque je dois avouer que je l'ai vue au cinéma.
Ouais, mais dans Crash, justement, elle confirme bien, quoi.
Oui, tu vois, voilà. Tout à fait. Donc, c'est Highlander 3 et le dernier où Christophe Lambert interprète le rôle-titre. Le dernier où Christophe Lambert est le véritable héros. Donc, c'est l'occasion de faire un quiz Christophe Lambert. Xavier, s'il te plaît. La petite musique du quiz. Alors, nous allons faire un quiz Christophe Lambert. Il y a 10 questions. Et les réponses à trouver, ce sont des nanars.
Les mains sur le buzzer.
Des nanars dans lesquels Christophe Lambert a joué. Alors, j'hésitais avec.
Il y en a tellement.
J'hésitais avec les bons films, mais les bons films, ça tenait pas sur.
On va se mélanger les
10.
Titres, là.
Ça tenait pas sur 10 réponses.
Fortress Endgame.
Alors, attention. il faut trouver un film dans lequel Christophe Lambert a des moustaches.
Bip. Vercingétorix.
Bravo.
Oh,
bien vu.
Deuxième question. Un film dans lequel il est dans une prison.
Bip. Fortress.
Fortress, ouais.
Question 3. Il y a une épée.
Highlander.
Dans un film au titre imprononçable.
Ah. au titre imprononçable. Oui. Ah, attends, il y a La Proie où il avait aussi un sabre.
Non, ça va, c'est assez prononcé.
Ah oui, Beowulf.
Voilà. Il partage la vedette avec des chiens de traîneau.
Grand Nord.
Voilà. Il partage la vedette avec un lièvre.
Le lapin de Van Houten ou... Ah non, Van machin là.
Oui, tu étais presque. Le lièvre de Vatanen, oui.
Bah attends, c'est pas une bouse, ça.
Ah, non, il avait l'air sympathique,
ce film. T'as pas vu les critiques, toi.
Ah. D'accord, bon, ok.
En même temps, il y a Christophe Lambert. Hein.
Oui, il partage la vedette avec deux chiens.
Oh non, Hercule et Sherlock.
Ah, pour l'instant, sans faute, hein. On voit qu'il est incollable. Il joue avec Mario Van Peebles le rôle d'un truand.
Ça, c'est deux doigts sur la gâchette.
Bravo!
Ah, oui. C'est vrai.
Il lance des éclairs et porte une chemise de nuit.
Mortal Kombat.
Attends.
On en a parlé tout à l'heure, il couche avec Deborah Unger.
Highlander 3.
Et il se fait décapiter.
Highlander Endgame.
Voilà!
Ah, c'est vrai, oui.
Donc nous avons tenu qu'une indication avec des nanars.
Ah oui.
Il y avait aussi des films passables qui sont pas vraiment des nanars, mais qui sont pas vraiment des chefs-d'œuvre non plus. Bon, voilà. Donc l'occasion rêvée pour parler effectivement maintenant de la série télé.
Oui.
Sans parler de la série télé, puisque le quatrième film est dérivé de la série télé, on en parlera tout à l'heure.
Ouais.
Qui se lance?
Allez, Highlander, la série, c'est une coproduction en fait, hein, tout s'est passé lors du Festival de Cannes. C'est là qu'ils se sont rencontrés, qu'ils ont eu l'idée de dire « Ouais, c'est pas mal, on a une franchise qui marche.
» C'était à quelle époque?
C'était 90, après le 2. 90.
Ah, c'était
en 90, deux ans avant le début de la série qui a commencé en 92. Et donc avec le producteur William Panzer et les autres coproducteurs et surtout les gens, la France, par l'entremise de Gaumont, a décidé de foutre beaucoup de cacahuètes dans cette série parce qu'ils croyaient que ça allait marcher. Et donc on assiste
surtout,
à une coproduction.
Surtout Gaumont voulait se diversifier dans la télévision avec l'arrivée des chaînes privées, chose sur laquelle il n'avait pas fait. Il s'était mis en coprod avec TF1 d'ailleurs là-dessus.
Et donc on coproduit du côté de la France, des États-Unis, de l'Italie et de la Grande-Bretagne, hein, ce qui va permettre, on en parlera un petit peu plus tard, de diversifier justement les plans de tournage, les lieux, les pays, enfin bon.
La France revient beaucoup. Hein.
Duncan, casting, il voyage vachement, quoi. Faut dire qu'il a eu le temps. Hein.
Oui,
400 ans, c'est quand même pas mal.
Et il aime bien Paris. Hein.
Alors, cette série a débuté en 92 et est allée au bout de sa 7e saison. Hein. La série s'est arrêtée, c'est-à-dire de plein gré. Hein. Ils ont dit, bon, ok, on a tout dit, ça commence à s'enliser, on n'en fera pas une autre. On va pas attendre de se faire foutre dehors par la chaîne qui nous diffuse.
Et même sur la fin, Duncan n'était plus trop présent puisque l'acteur, justement.
Voilà, il était un petit peu pas dedans, quoi. De toute façon, les histoires partaient dans tous les sens, un petit peu trop de surnaturel. On délaissait l'esprit premier de la série. Alors ça a été les producteurs, dont William Panzer, j'en ai parlé, il y a Michael Davis, Christian Charest et Marla Ginsburg, ainsi qu'un producteur associé que mes enfants connaissent très très bien, c'est Marc du Pontavice.
Ça fait mal.
Eh oui, qui a fait Les Zinzins d'Espace, OG et les Cafards,
Lucky Luke.
Oh là, j'en passe des meilleurs.
C'est notre univers.
Il y a 10-15% de ce qui passe à la télé sur les chaînes pour enfants, c'est du Marc de Pantavis. C'est pour te dire que bon, le bonhomme est canadien, mais ça marche donc. Alors, la série Highlander, donc cette saison, ce qui représente un total de 119 épisodes qui faisaient 42 minutes, format traditionnel. Alors, on n'en a pas parlé au début, hein, et pourtant, il faut bien savoir quelles sont les règles. Alors, il faut savoir qu'aucun immortel ne choisit de le devenir. Il vient normalement et vieillit jusqu'à leur première mort. Ça, tu en as parlé. Les immortels ne peuvent mourir qu'en étant décapités, ça on le savait. Et lorsqu'ils tuent un autre immortel, l'essence vitale de celui-ci est transférée au vainqueur au cours du quickening. Tu sais, les
éclairs, voilà. Qui ne sont pas dans le 1 d'ailleurs.
Quickening ou fulguration.
Régénération.
Là, Ramirez dit accélération, lui.
Oui, ou régénération, ou je sais plus quoi dans le 2.
Aucun immortel ne peut recevoir l'aide d'un autre immortel durant un duel. On verra que dans la série,
il y en a qui prennent des libertés, ouais.
Ouais, ouais. Aucun immortel ne peut se battre sur un sol sacré unique
là
refuge.
Là aussi.
Dans un futur plus ou moins proche, tous les immortels seront attirés dans un lieu où se déroulera la rencontre et où ils devront se battre entre eux à la fin.
Il ne peut en rester qu'un.
Exactement.
Et dans
exactement.
Le premier film, c'est New York.
Alors donc, on l'a signalé, oui. Tu l'as signalé, Manu. Tous les immortels sont dans des enfants trouvés. Les immortels ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils sont stériles. Et Duncan est le seul immortel dont on connaît la date de naissance, qui est le 21 décembre 1592.
Un solstice.
Un jour de solstice en plus. Alors je disais que Duncan, donc, il est né le 21 décembre 1592 à Glenfinnan, c'est dans les Highlands écossais. Bon, logique, hein, un petit peu quoi.
Forcément.
Et il faut dire qu'au fur et à mesure de ses 400 années, bah, il s'est quand même pas mal baladé. Bon, de sa prime jeunesse, il la passe en Écosse, hein, mais vers l'âge de 33 ans, ouais, c'est ça, 33 ans, 1631, il se tire, il va en France. Ensuite, il va faire un petit tour en 1637 du côté de l'Italie, à Vérone. Ensuite, continent africain avec l'Algérie. Retour vers l'Europe, pérégrination un petit peu partout. Il se base un petit peu en France en 1660. Ensuite, il va faire un tour en Chine en 1685. Du côté de l'Écosse, on le retrouve pour la fameuse bataille de Culloden en 1746. Rappelle-toi la baston célèbre de Culloden. Ah ouais, non mais attends.
Magnifique.
On peut encore y aller, hein, de toute façon. Tu peux aller visiter le lieu et tout, quoi. Avec les rochers, il y a du sang encore dessus et tout, ouais. 1750, il part en Russie. Ensuite, 1753, on le retrouve en Turquie. En 1764, alors là, carrément, en Asie, il va en Inde, Pacifique Sud, Japon. Il retourne en Chine en 1780. En 1783, retour vers l'Europe, vers la France et vers l'Angleterre jusqu'en 1815. Bah ouais, ça aide parce que là, l'histoire, Napoléon, tout le truc et tout,
oui.
Hein, ça aide un petit peu quand même. Après, la défaite de Napoléon, 1815-1817, il décide de partir vers le nouveau continent, les États-Unis, où il atterrit dans le Montana, à Philadelphie, à San Francisco, on le retrouve au Texas, il participe à la guerre de sécession, bien entendu. Et après la guerre de sécession, en 1867, il va foutre le bordel au Mexique, où Maximilien, qui est le patron là-bas, se bat avec ceux qui sont pas d'accord que les Français soient venus et imposer. Enfin bon, vous connaissez un petit peu votre histoire quand même. Mais Duncan est là, il en fait partie. Ensuite, il retourne du côté des États-Unis et en 1912, il décide de partir un petit peu en Afrique, mais il revient bien vite en Afrique. Pourquoi ? Pour aider un petit peu le pays ami des Écossais, la France, qui est engagée dans une guerre mondiale, 14-18, on le voit Brancardier qui a déprimé.
Où il rencontre un de ses meilleurs adversaires.
Darius.
Non. Oui, Darius, mais aussi Xavier Saint-Cloud.
Ah, là aussi, d'accord.
Ouais, ouais. Dans les années folles, il décide de 20-30, il décide de retourner aux États-Unis, mais on va revenir pour la Seconde Guerre mondiale, en France, en Europe, en Angleterre, un petit peu en Allemagne, et par la suite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore quelques histoires qui nous sont contées et qui concernent surtout des événements très marquants de la politique internationale. On le voit au Cambodge pendant Pol Pot, on le voit également aux États-Unis pendant la crise de la baie des cochons, enfin des dates assez remarquables. Donc il a quand même vachement voyagé, ce monsieur, mais c'est normal, en 400 ans il peut se le permettre.
Petite précision, c'est justement lors de son voyage au Japon qu'il obtient son fameux katana.
Yes.
D'un maître mortel qui lui enseigne la propreté ainsi que le maniement du sabre.
Parlons un petit peu des acteurs à présent. Alors Adrian Paul, de père anglais et de mère italienne, ou c'est le contraire, hein, tout simplement. Il a commencé sa carrière non pas comme comédien, mais plutôt comme mannequin. Bon, faut dire plutôt beau gosse, quoi, hein, ouais, tu vois, ok. Et bah par la suite, il a commencé à suivre des cours d'acteurs. Bon, en Angleterre, c'est assez facile. Généralement, il y a des bons profs, hein, donc. Et il s'est retrouvé parachuté donc à la tête de cette production. Alors les autres caractères récurrents, les autres personnages récurrents, il y a les nanas, il y a les deux nanas, il y a Tessa.
Alexandra Van Der Noot.
Alexandra Van Der Noot, hein, qui rencontre d'ailleurs chronologiquement. Très très tard, puisqu'il la rencontre de nos jours, hein, l'ère contemporaine dans les années 90.
Oui, dans ces eaux-là.
Si, dans les années 90, hein, c'est l'histoire avec la péniche et tout
oui,
ça.
Oui, voilà. Où il échappe à un autre immortel et il tombe accidentellement, enfin, plus ou moins volontairement sur une péniche où il rencontre sa donzelle et il obtient son amour, non pas en lui révélant qu'il est immortel comme Connor, mais lui, la plus originale, il la rectifie sur les dates historiques.
du côté des autres acteurs, on a bien sûr son alter ego, surtout dans la première saison, qui était un petit peu bordélique, qui est pas trop au point. Richie Ryan. Il y a également joué par Stan Kirsch. Il y a également Charlie DeSalvo, joué par Philippe Akin. Et on va voir apparaître par la suite d'autres personnages récurrents. Un personnage récurrent qui est là depuis le début, c'est Joe Dawson, hein, oui, qui est le guetteur de
la bonne idée de la série.
Ouais, c'est le qui est le guetteur. Mais je vais y revenir parce que l'idée est développée plus à partir de la deuxième saison en fait. Hein.
Oui, c'est au moment où ils ont un nouveau scénariste qui avait travaillé, je crois, sur MacGyver et V.
Et également sur Cagney Lassie, qui s'appelle David Abramovitz, hein, qui a été nommé conseiller à la création à partir du septième épisode. Les sept premiers épisodes, en fait, hein, c'est ni plus ni moins, dans chaque épisode, une histoire complète, un Highlander miniature hein, de 42 minutes, avec bon, un combat à la fin, un quickening.
D'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser depuis tout à l'heure, c'est que dans le premier épisode, il y a la rencontre entre les deux MacLeod.
Oui, oui, bah, oui, pour faire passer le truc, pour faire passer le truc, bien entendu. J'allais en parler de toute façon dans les guests.
D'accord.
Et là, je sais plus où j'en étais, quoi. Tu, vois,
tu disais qu'il y avait les nanas.
Il y avait. Je parlais de Joe Dawson, donc ce personnage du guetteur et qui est interprété par un mec qu'on connaît vachement bien, quoi, dans le monde des séries télé. C'est Jim Burns. Pourquoi? Parce que bon, il a une particularité physique. Hein, il lui manque une jambe et ça l'empêche pas de très bien jouer la comédie. Et c'est également le guetteur de qui? De Vinny Terranova. C'est le guetteur de Vinny Terranova.
Ah oui, c'est
Oncle
vrai,
Mike.
C'est
Oncle Mike. Rappelle-toi, le
ah
mec
bah, un flic dans la mafia.
Ah oui, d'accord, ok.
Quand il téléphone et tout, quand il fait prise, troupe, montez-y. Oui, c'est ça. Ouais, salut Vinny, tu vas bien. qui donc joue le rôle de ce guetteur. Alors scénaristiquement, les sept premiers épisodes, c'est des bouses parce que bon, enfin c'est pas des bouses, mais enfin bon, ils n'ont
un peu
qu'une signification par la suite. Pour la suite de la série, à partir du septième épisode, David Abramovitz entre en scène et décide de recentrer un petit peu la série sur des thèmes bon un petit peu plus universels, le bien, le mal, la rédemption, la mort, et des trucs comme ça qui vont servir un petit peu de matériaux, de noyaux de base à ce qui va être la série un petit peu plus tard. Dans la, à partir de la saison 2, hein, qui est d'ailleurs nommée Les Guetteurs, là, on commence à avoir une mythologie un petit peu plus intéressante. Et alors, là, il faut que je retrouve le truc. Hein. Parce que on développe d'autres personnages que les immortels. Il n'y a pas que les immortels et les humains, mais il y en a encore d'autres.
Surtout que, en fait, bon, les immortels, les duels, les quickening, au bout d'un moment, ça finit quand même un
ouais,
peu par
se voir.
Ouais,
parce que bon, c'est toujours la même chose. Ouais, c'est un immortel contre un autre immortel. Bon, bah, ça gave, quoi, ça va. Quoi.
Puis surtout, les gens se rendent compte qu'on trouve des gens décapités, qu'il y a des éclairs sans nuages, des choses comme
ça, ouais.
Et que bon, il y a bien des gens qui vont le remarquer un jour.
Voilà. Alors. Je lis texto parce que bon, j'ai pas tout intégré hein, quand même. Quoi. Parfois, les adversaires que doit affronter MacLeod peuvent être aussi des êtres humains. C'est le cas des chasseurs, les membres renégats de la secrète société, des guetteurs composés de mortels qui observent les immortels depuis la nuit des temps et qui consignent tous leurs faits et gestes dans ce qu'ils appellent des chroniques.
Sans intervenir en principe.
Et sans intervenir. Chaque immortel a son guetteur, celui de Duncan donc et Joe Dawson, hein, qui deviendra un ami fidèle. Les chasseurs sont des guetteurs qui utilisent leur savoir sur les immortels pour les éliminer, car ils les considèrent comme des monstres qui finiront un jour ou l'autre par asservir l'humanité. Et donc, ils ont un grand chef qui est des personnages récurrents.
On en revient
voilà,
au premier, du coup.
Un des meilleurs méchants de la série.
Qui est le beau-frère de Dawson, d'ailleurs, hein, en plus. Quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est le beau-frère du guetteur de Duncan. À présent, j'en parlais de Christophe Lambert qui passe le flambeau dans le premier épisode de la première saison de Highlander. Il faut dire que bon, comme il y avait le pognon, ben ils ont pas lésiné au niveau des guests et tout. On trouve de tout et de n'importe quoi. C'est pas forcément péjoratif ce que je dis. Dès le numéro 3, Dustin Nguyen qu'on connaît de 21 Jump Street, l'asiatique, Dustin Nguyen. Dans le numéro 5, Johan, I Love Rock'n'Roll, Jet.
Jet, merde.
Dans le numéro 6, Andrew Divoff, Mark Singer dans le 7, Joe Pantoliano dans le 9, Didi Bridgewater dans le 16. Ça, on l'a remarqué, même moi j'avais remarqué quoi, tu vois. Et l'apparition d'un personnage qui va devenir récurrent et qui va même générer sa série Elizabeth Grayson dans le numéro à partir du numéro 18.
Amanda.
Et également à la fin de la première saison, je crois que c'est le dernier épisode, me semble. Ouais, j'ai pas le temps.
Alors si c'est Fitzcairn.
C'est Roger Daltrey, le chanteur des Who, hein, qui fait plusieurs apparitions. Il fait une apparition dans le numéro 22 de la première saison et on le retrouve dans le numéro 86 et dans le numéro 103. Il a eu une particularité qui est assez rigolote. C'est-à-dire que il s'est vachement bien adapté. Moi, je considère que Daltrey est un assez bon acteur quand même, quoi.
Mais il est très bien.
C'est très bien adapté dans Highlander parce qu'en fait, il joue un rôle qui lui est assez naturel. C'est un immortel dans la série. Mais en fait, c'est un immortel qui pense pas comme les autres immortels à descendre les autres immortels pour qu'il n'en reste qu'un. Lui, il pense plutôt à niquer les nanas, à boire. Allez, vas-y, on fait la fête et tout. On en profite, tu vois. L'hédonisme à fond les manettes, quoi. Et donc, c'est un personnage qui est quand même relativement attachant, quoi. Et bon, en plus, Daltrey est vraiment très rigolo, hein, de toute façon, quoi. À partir de la deuxième saison, donc la saison qui se nomme Les Guetteurs, on a Tracy Lords, Sheena Easton, Dustin Nguyen qui revient, Roddy Piper.
Oui, façon Los Angeles.
Et ouais. Et on retrouve Jonathan Banks, qui était le patron de Vinny Terranova. Tu te rappelles le mec avec lunettes dans l'épisode 34. Il y a également l'apparition de Tonya Kinzinger dans le 38.
Merde.
Et de Peter First qui par la suite deviendra un personnage un peu plus récurrent, mais vers la fin, aux alentours de la saison 4, saison 5, Peter First qui a été révélé, non pas parce que c'est le frangin de Colin First, mais parce que il avait le premier rôle du film Tess là de Polanski, hein, qui date quand il était tout jeune, hein, il était tu vois ado et tout, mignon. Je vais gars dans la troisième saison, Brian James. Souvenez-vous, Brian James, Stella Stevens, Peter Wingfield. Et alors Peter Wingfield, là, c'est quand même rôle parce que c'est Métos, c'est le personnage qui va devenir pratiquement récurrent. J'ai pas compté, mais enfin bon, il apparaît dans une quinzaine d'épisodes tranquille. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'immortel le plus vieux. Il a 5000 ans, rendez-vous compte, 5000 ans, quoi. Et en plus, c'est bien parce que selon les épisodes, il change de look, d'apparence et tout. Et ça, c'est excellent.
Il a été un vrai enculé.
Il y a des milliers d'années.
Ah oui, il y a des milliers d'années, il faisait partie des Chevaliers de l'Apocalypse. C'était vraiment un enculé, oui, je confirme. mais au même titre que Darius, d'ailleurs, à son époque.
Il est
devenu prêtre et Peter Winfield, en fait, Métos est devenu guetteur.
Et on reste dans les péteurs dans la quatrième saison où on retrouve un certain docteur David Sandstrom, Peter Otterbridge, qui joue dans le numéro 74. Et on retrouve également Tomer Sisley dans le 81. Où il joue le rôle d'un arabe du Moyen-Orient. Regarde, c'est dans le numéro 81, quoi, si t'as le temps. Quoi,
81.
Il a un nom arabe, enfin un truc. Et il est bien bronzé et tout. Je crois qu'il y a même la photo.
Cassim,
ouais, tu vois. Cinquième saison, on retrouve Nicholas Lee. Ouais, c'est normal. Il devait apparaître.
Krychek
dans X-Files. Ron Perlman dans le 97. Épisode avec Métos en plus. Quoi. Et on retrouve encore un petit frangin first comme ça, hein, pas Colin, mais Jonathan dans le numéro 105. Et j'en ai passé, hein, j'ai vraiment mis les.
Il y a la jolie Cassandra aussi.
Ouais, mais enfin bon.
T'as pas parlé
qui
de.
Était dans Louis et Clark.
Et Franck Dubosc.
Ah oui, quand même.
Bah oui, Franck Dubosc, ça passe en boucle chez Arthur d'ailleurs, cet épisode, enfin l'extrait dans lequel il apparaît.
Désolé, on n'a pas les.
Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut dire qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, des acteurs plus spécialisés dans les séries, hein, qui n'ont jamais percé.
Et t'as le chanteur des Fanion Cannibals aussi qui est dedans.
Ouais. Mais enfin bon, liste non exhaustive de toute façon. Alors la télé actuellement, on peut le voir sur W9. C'est tous les jours de la semaine et c'est tous les jours de diffusion. La première à 14h15. Mais en fait, ils diffusent l'épisode de la veille qui a été diffusé à 17h05. Bah, alors profitez-en parce que c'est la première saison qui est actuellement diffusée. Ils en sont, je crois qu'on va attaquer la semaine prochaine l'épisode 9 et l'épisode 10. Donc, vous loupez pas grand-chose si vous attaquez directement à partir de la semaine prochaine la série Highlander, parce que vous allez tomber justement sur le meilleur, quoi. Vous avez loupé les trucs. C'est rigolo, disons l'épisode avec Joan Jett est rigolo, quoi. Enfin, moi j'aime bien Joan Jett, donc ça le fait, quoi. Mais sinon, bon, c'est vrai que les premiers, c'est un petit peu bourrin, on s'en lasse un petit peu. Je crois qu'on a fait un tour assez complet.
Puisqu'on a parlé de la série dérivée L'Immortel avec Elizabeth Grayson, Amanda, ouais. Et puis il faut parler aussi de l'autre œuvre dérivée de cette série télé qui est Highlander Endgame, qui était le quatrième film au cinéma. Et c'est un film de Douglas Aronofsky.
Oui, avec deux A.
Voilà, à Aronofsky. Et cette fois, donc, Adrian Paul s'est coupé les cheveux. Et puis, voilà, c'est il y a une apparition également de Donnie Yen, qu'on connaît bien, fan de Hong Kong.
Le seul qui sait se battre, d'ailleurs.
Voilà, exactement. Et l'enculé est encore un mec dont le personnage.
Oula.
Le nom du personnage commence
alors,
par un K.
Ça commence par un K. C'est Kel. Ne pas confondre avec Michael Kel, CNN International.
Là, c'est Jacob.
Voilà, Jacob Kel qui est joué par un acteur.
Bruce Payne.
Oui, Bruce donc. Payne. Qui est joué par quelqu'un, on va dire.
Qui est joué par Bruce Payne, qui faisait une apparition dans le cours de Christophe Gans Necronomicon. C'était lui le rôle principal. Oui. D'ailleurs, il a joué dans Passager 57 avec Wesley Snipes aussi. Bon.
Ouais.
Un habitué des rôles de bourrin.
Voilà, et qui s'est très bien cabotiné.
Voilà. Et donc, ce film ne restera pas dans les annales non plus, car tout ce que la série s'est entreprise à créer de mythologie, de personnages charismatiques et tout, le film les explose au bout
du... Ah, mais il l'enterre carrément.
Voilà. Car Christophe Lambert ne ressemble plus à rien. Enfin, voilà.
Non, il change de coupe de cheveux tous les quarts d'heure. on voit qu'il a beaucoup, beaucoup vieilli. Enfin, en revoyant le. Enfin, si on voit le 1 et juste après avoir vu le 4, franchement, ça fait un choc.
Voilà. On a aussi des scènes surréalistes où Joe Dawson abat un mec avec d'une balle dans l'eau qui lui dit Joyeux Noël. Il y a Adrian Paul qui tombe du haut de trois étages, qui se fait empaler sur une barre en métal. Et puis au lieu de pour l'emprisonner, les gens ils ont amené une scie à métaux exprès parce qu'ils savaient qu'ils allaient s'empaler dessus.
En fait, les guetteurs qui traînaient dans le coin ont eu l'intuition certainement qu'il allait se faire empaler, donc ils ont amené une scie sauteuse pour le découper. Enfin, c'est naturel, ça vient comme ça. Ils avaient un fourgon.
Il l'embarque dans le fourgon avec encore la barre en métal au bout.
Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la particularité de ce film, c'est que pour la première, pas vraiment pour la première fois, mais on va dire que le méchant se moque totalement des règles, donc il tue les immortels même sur les sols sacrés, sans être puni d'ailleurs, et donc s'attaque à un sanctuaire où sont retenus prisonniers, plus ou moins contre ou pour leur gré, afin de s'écarter du jeu. Donc il les décapite tous sur place. Alors le but des guetteurs en enfermant ces immortels, c'est d'éviter qu'il y ait un ultime combat. Donc d'éviter que ces immortels se fassent tuer. Donc sachant que maintenant le système marche plus puisqu'un immortel est venu tous les tuer, que faire pour les empêcher Kel de tuer Duncan ? Eh bien on va l'enfermer dans un autre sanctuaire, tout simplement, l'attachant bien solidement pour qu'il puisse pas se défendre et en laissant le coup en évidence.
C'est vachement bien pensé.
Ah oui, c'est très bien pensé.
Bon, nous allons passer sur ce film, nous avons assez descendu. D'ailleurs, nous avons eu le privilège de le voir au cinéma également.
Ah oui, un vrai crève-cœur.
Et donc, avant de parler un peu de Highlander The Source, qui est prochain film, il faut savoir aussi...
Oui, parce qu'il y aura d'autres films.
Il y a eu aussi des œuvres dérivées en dessin animé.
Alors en fait, oui, il y a quelques temps, il y a eu une série animée d'une cinquantaine d'épisodes ou une quarantaine. Je n'en ai pas gardé un souvenir impérissable parce que c'était assez loin de l'univers de Highlander et je n'avais vraiment pas du tout accroché.
Ça se passait sur M6.
Oui, voilà. C'était,
c'était une série animée où les immortels ne se décapitaient pas, ils se transmettaient le flambeau en se touchant le sabre.
En fait, ils ont décidé. Ils ont décidé d'arrêter le combat, à l'exception d'un qui s'en est pris d'ailleurs à Connor McLeod, présent dans le dessin animé et qui meurt un petit peu lamentablement. Et donc en fait, il est dit qu'un nouvel immortel va apparaître. Donc Quentin McLeod, le nouveau héros, qui est un garçon éduqué par Ramirez, qui dans cette version est toujours en vie, sachant que généralement il obtient le pouvoir des autres immortels juste par un accord mutuel, par un échange de main à main, on va dire. Et que, à l'exception d'un méchant immortel, il n'y a quasiment pas de duel d'immortel en fait.
D'accord. Donc ils ont des épées, on ne sait pas pourquoi ils les ont.
Ouais, c'était pas terrible.
Voilà. Et pour ceux qui s'intéressent à l'animation japonaise, peut-être que le nom de Kawajiri va vous dire quelque chose, puisque c'est le futur dessin animé. Alors ça, c'est pas une série.
C'est le réalisateur de Ninja Scroll, ceux qui connaissent. Et en fait, c'est peut-être la dernière chance de sauver la franchise. Enfin. J'ai eu quelques échos concernant l'anime et apparemment il semblerait que ça soit bien parti, qu'on ait un bon produit, même si certains éléments peuvent faire réfléchir.
Oui, on a vu des extraits sur le net où il y a un immortel qui combat des espèces de droïdes volants. Mais par contre, c'est vraiment très ancré SF avec des lasers et tout dans là. Peut-être par contre, comme on sait que Kawajiri il fait pas dans la demi-mesure et vraiment du.
Enfin, il s'est vraiment montré en général des mouvements dans une action qui peut sembler confuse au premier abord. Il est très fort. On l'a pu le voir dans Ninja Scroll justement.
Et dans Animatrix aussi.
Oui, il a fait deux segments d'Animatrix, scénarisé l'un et réalisé le deuxième. C'est vraiment. Bon, faut pas être allergique à tout ce qui est bourrin et transperçage de corps avec du giclé de sang. C'est quand même assez du bourrinage ce qu'il fait, mais
voilà, ça sera pas du M6 Kid.
Et donc nous allons finir ce dossier par parler en parlant du dernier film qui est annoncé pour fin 2007, c'est ça?
Alors en fait, il était annoncé pour début 2006. Le tournage était censé avoir été fini en fin 2005. Puis bon, il a fallu faire d'autres trucs en 2006. Finalement, il sera peut-être en 2007 voire 2008 parce que apparemment chez Lionsgate, ils sont pas très contents du montage, sachant qu'en fait, il y a déjà une version du film qui a échappé en Russie. À cause d'une bêtise d'une gourde d'un distributeur donc qui a sorti un DVD d'Highlander The Source et du coup forcément ça a donné naissance à plein de bandes annonces de fans sur internet et autres conséquences que l'on connaît. Voilà, et on sait déjà que faut pas s'attendre à un chef d'œuvre.
Voilà, les extraits qu'on a vus, il y a une espèce de gardien tout chelou, fantastique,
ouais,
médiéval.
Ouais,
tout blanc. T'as une espèce de vortex à la Stargate derrière.
Mortal Kombat, ça!
Ah, oui, presque, ouais.
En fait, le gardien, si tu veux, visuellement, il me gêne pas trop. Il aurait pu donner quelque chose d'intéressant, même s'il fait penser un peu à la tenue de Bratak dans Stargate. Moi, ce qui me gêne, c'est surtout que je l'ai entendu parler. Et bon, si on trouvait que Bruce Penn cabotinait, je crois que l'acteur Christian Solimeno, ou je me souviens plus très bien du nom, lui risque de bien casser l'effet du méchant, enfin de bien.
Oui, torpiller ce qu'on aurait pu bien donner un bad guy correct.
Voilà, c'est dommage parce que visuellement il est intéressant quand même.
Bon, et bien voilà, on a parlé des 5 films, des séries animées, la série télé, donc s'il y a quelque chose à garder de la franchise, c'est évidemment le premier film ainsi que la série télé.
Voilà. Peut-être le film de Kawajiri. Ainsi que des comics qui sont en train de paraître, qui reprennent, on va dire, la suite du premier film, donc avec Connor McLeod en héros. Duncan apparaissant à partir du 5e tome, il me semble, et devant sauver Connor, donc son cousin, d'un Quickening noir.
Donc ça, c'est vraiment dans la pure tradition des comics, puisqu'on a vu quelques pages sur le net. C'est, vraiment, c'est bien foutu, hein, franchement. Bon, voilà, c'est du costaud, du carré. Voilà, c'est du comics avec les personnages d'Highlander. Voilà.
D'accord. Du sport.
Eh bien, le mot de la fin avec quelques petits goodies. Et ça y est. Alors là, je suis vachement content. Je suis pas encore allé l'acheter. Mais enfin bon, je veux dire, bon, de toute façon, il y aurait un wagon. Ça risque pas de disparaître d'ici là, quoi. Ça y est, il est sorti. Il est sorti, vous rendez compte, depuis le temps qu'on attend.
Highlander 2 en DVD, c'est ça?
Mais non, je parlais du DVD de la première saison de Oz.
Ah
ouais!
Qui vient de sortir. Alors, il faut savoir que, si vous avez des connexions, outre-Atlantique, deux saisons de Oz sont déjà sorties en zone 1. Hein, mais c'est tout, hein, il n'y a pas les autres encore. Et là, ben, on a nous ici en zone 2, donc la saison 1. Alors, je vais pas en rajouter sur Oz, de toute façon. Hein, je considère que c'est une des plus belles et meilleures séries jamais créées à la télé. hein, toute nationalité confondue. Mais par contre, il faut noter que le prix n'est pas trop excessif, hein, c'est deux DVD en fait, un prix tout à fait normal pour cette série. Oz qui est absolument magnifique, hein, de toute façon. Quoi,
combien le prix?
20€ moins 10 centimes.
Bah 19,90.
Oui, non, mais on n'est pas censé donner les prix à l'antenne.
Ouais, ouais. Ensuite, si là, je vais quand même donner
bravo
les prix.
Bravo Thomas, merci.
Ensuite, dans la série des petits livres qui coûtent pas cher, que tu dois connaître, certainement.
Ouais,
enfin bon, les gens qui lisent un peu, ils connaissent.
La collection Librio, voilà.
Hein, c'est la collection Librio, hein, qui réédite des grands classiques, en petits bouquins pas chers, 2€ le bouquin, quoi. Bon, bah, vous voyez le format, c'est fin, mais enfin, bon, il y a des, toute une série avec des auteurs classiques, et également, une partie guide un petit peu et une partie cuisine. Et là, viennent de sortir deux livres absolument magnifiques. L'un qui s'appelle Plateau télé, comment bouffer devant sa télé. Et le deuxième, vachement plus intéressant quand même, parce que ce sont des recettes authentiques, hein, attention, hein, c'est pas de la vanne, authentique, la cuisine des séries. Et au générique, qu'avons-nous au générique? Eh bien, on va pouvoir apprendre à faire la véritable soupe Vulcaine de Star Trek. Le poulet à la cannelle de chez Nelly, de la petite maison dans la prairie.
Oh non!
La brioche et le chocolat crémeux d'Hercule Poirot, bien entendu. Ou alors encore, les cookies au flocon d'avoine de Phoebe, dans Friends. Et la tarte à la rhubarbe d'A.B. Farnum dans Deadwood. Il y a également Lost, Six Feet Under, 24 heures chrono, Les Sopranos, Sex and the City.
Alors 24 chrono, je me demande ce qu'ils peuvent bien bouffer parce qu'on les voit jamais bouffer.
Le genou terroriste normalement.
Oui, c'est suspect qu'on cuisine là-bas.
Tu veux savoir ce qu'ils mangent? Tu le vois. Le Do Not Top Chrono. Alors ce sont de vraies recettes.
24 heures.
Hein. C'est-à-dire que bon ben il y a tout, hein. C'est-à-dire que la préparation, c'est un livre de cuisine. Hein. On peut faire les recettes, il n'y a pas de problème. Ça marche très très bien.
Oh, je vais le mettre dans mon meuble télé celui-là. Il y a déjà des bouquins de cuisine.
La recette la plus facile devant bien-être, à mon avis, celle de Six Feet Under. Hein. Ce sont des pêches au sirop. Simplement. Voilà, donc c'est la cuisine des séries, ça s'appelle, hein, c'est paru aux éditions Librio. Et le plateau télé, alors c'est pas mal, hein, c'est aussi c'est pour les gens qui mangent pas à table, qui bouffent dans leur télé. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a séparé les différentes façons de manger. Alors le plasma, c'est-à-dire sont des choses qu'on mange quand même dans des petits plats, donc il faut quand même avoir des couverts et son petit plateau. Ensuite on a les roulés, hein, ensuite on a les craquants, c'est-à-dire genre brique ou salade. Ensuite on a le type ado, c'est-à-dire plus le cheese, junk food, des trucs comme ça. Mais c'est quand même des recettes intéressantes, hein. Tu vois, le cheeseburger hawaïen, c'est quand même pas mal, quoi, si tu regardes la composition de différents trucs. Ensuite, il y a duo, et ensuite, il y a sucré-salé, des petits trucs sucré-salé. Bon, quand tu regardes les photos, ça a l'air vraiment superbe, superbe,
ah,
bien, regarde.
Ah ouais, oui, quand même.
Ça te parle, ça.
Envie,
quoi.
Ouais.
Ça te parle, hein, ça. Il y a même un truc un petit peu japono, machin, je sais pas quoi. Là.
Ah, c'est bien ça pour faire les soirées, 30e chant de Shaolin.
Ouais, non,
en général, c'est tu te prends le bol de soupe de nouilles et soupe, tu sais, un santaï kirin là.
Il y a également l'italien, c'est-à-dire des trucs un petit peu italiens. Et ce qui est très intéressant, ce sont des recettes très très simples qui sont en fait des bases pour agrémenter d'autres recettes telles que la tapenade, la recette des scones. Il y a également l'aioli, la sauce au curry, la sauce au saumon et la sauce bulgare. Donc voilà, hein, pour les gens qui ont pas envie d'acheter un super bouquin de cuisine, c'est tout indiqué.
C'est quand même fort
chez Librio, donc
c'est quand même fort. Du sport pour une fois, nous fait une chronique télé où on parle de ce qui n'a pas à la télé mais devant.
C'est important, non?
C'était joli.
Je vais terminer avec, je vais pas parler des séries qui passent en ce moment. Bon, si, il y a la 5e saison de FBI portée disparue, il y a également, Doctor House qui est diffusé sur, TF1, mais tard le soir, le mercredi, dans un ordre complètement débile. C'est des gros cons, mais ça changera pas. De toute façon, c'est même pas la peine. On laisse tomber.
Du sport, on n'en parlera pas, mais il y a aussi la saison 5 d'Alias qui passe sur M6.
Non. Ah. Ouais, bah c'est en même temps que Doctor House, figure-toi, c'est mercredi.
Non, jeudi soir, c'est.
Ah, c'est jeudi. Ah, ils ont décalé. Ouais. Bah tant mieux, quoi. Je vais vous parler plutôt de la séance de vendredi prochain sur Paris Première. Et si je dis vendredi soir, Paris Première, tard le soir, vous me dites.
Le cinéma fantastique. Non.
Mais non.
Mais
allons.
Non.
Allons. Paris dernière, c'était une émission un peu mythique, un peu culte.
Je croyais qu'il passait des trucs de cul.
où il passe des trucs de cul, hein, vendredi dernier c'était spécial sexy, mais sinon bon bah c'est tu sais Frédéric Taddeï qui se balade et tout dans les villes de Paris, dans la rue des rues de Paris la nuit, et puis il rencontre des gens dans les endroits improbables ou dans les bistrots, des trucs comme ça. Et là ben ce sera pas un petit Paris dernière, mais ce sera un spécial hentai.
Waouh.
Nuit nippon, nuit fripon. Vendredi prochain donc sur Paris Première à partir de 23h40 avec pas 5, pas 6, pas 7, 8 épisodes. 3 épisodes de G-Taste, 2 épisodes de Discipline, ouais ça ça doit être un peu bondage tu vois. 2 épisodes de Fragile.
Non, c'est Shigari comme on dit.
Et un épisode de Front Innocent. Voilà, donc c'est vendredi prochain sur Paris Première, nuit nippon. Nuit Fripon, spécial hentai.
Il faudrait que je m'abonne, pourrais, ouais, ça peut se faire.
Tu pourrais préciser ce que sont les hentai?
Oui.
C'est du porno, c'est du porno de manga. Voilà. Porno, voilà.
Alors, en général, ouais, ficelé, ficelé enfin, là, très serré.
Oui, là c'est des japanimes, hein, c'est-à-dire, c'est pas des mangas, c'est japanimes. Mais il faut signaler que comme là-bas ils sont vachement stricts en ce qui concerne les organes sexuels, donc il y a pas de, on voit pas d'organes sexuels, c'est flouté,
c'est mosaïqué. Alors, aussi
mosaïqué ou flouté quoi.
Alors attention, parce que dans le bouquin de Frédéric Boilet qui est sorti tel quel au Japon,
c'est pas flouté,
ça n'est
pas, hein.
Ça n'est, c'est le poil pubien qui effectivement est interdit de représentation, mais uniquement au cinéma. Et à la télévision, ça pourrait être toléré, mais comme les gens sont tellement habitués à ce que ça soit flouté, ils floutent, voilà.
Ouais, c'est ça, hein, c'est ça.
Sinon, les gens ne bandent pas, voilà, c'est ce qu'il faut savoir.
Ouais, trop vu de flou, trop excitant, merde.
Allez, dehors, la salope, dehors. Non mais... Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, s'il te plaît? Merci.
Bah non, puisque on s'est bien éclaté dans cette émission, on n'a pas eu trop le temps pour noter du PV, donc il faut juste savoir que c'est une spéciale Highlander avec la visite de Emmanuel Andral qui nous a fait l'amabilité d'être là en tant que spécialiste de l'univers Highlander. On a eu de la BD chroniquée et également le programme de Paris Première de vendredi prochain.
Avec quand même un truc que tu oublies à propos de la bande dessinée, donc c'est la disparition d'Yvan Delporte. Tout cela, nom d'une hallebarde, si l'on loupait, eh ben ils peuvent le réécouter sur le site de Radio FMR, www.radio-fmr.net, avec les chroniques écrites mais aussi vos commentaires. N'hésitez pas à participer, ça nous fera beaucoup plaisir, et vous pouvez réécouter pratiquement tous les suppléments week-end. La semaine prochaine,
eh bien la semaine prochaine,
même heure, même antenne.
Voilà, même antenne. La tuerie commence avec l'arrivée du dessinateur chinois Benjamin, 17 mars. 24 mars, gros dossier sur le film 300 avec l'interview de Gabriele Delotto, un mec qui fait les splendides illustrations pour Marvel. 31 mars, un spécial Kaamelott avec interview d'Alexandre Astier. Et le 7 avril, le supplément Weekend Made in Japan.
Tout cela pour vous dire que la suite des programmes sur Radio FMR, eh ben qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est du sport, c'est de suite 15h le potager, 16h scène transmission, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 20h la Cetero Experience et 21h30 Stay Tuned. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci et je vous laisse avec du sport. Voilà, bien à vous, au revoir.